du de noir, où évidemment elle va payer sa puissance par la mort de son amant, qu'elle va rechercher, bizarrement et contradictoirement, elle va le tuer en plan. Voilà, c'est ça le baiser du noir, et c'est donc Catherine Moore. Et ensuite on a les braquettes avec les hommes noirs Amazones de Mars, par exemple. Mais comme vous voyez, ce sont des clones féminins d'hommes. Elles sont musclées, elles se battent, et elles n'ont pas... Quand par hasard, elles ont des aspirations féminines, ces aspirations féminines, enfin, considérées comme féminines, elles sont toujours battues en brèche. Elles perdent leurs amants, elles les tuent, elles les bouffent des fois. Mais elles ne peuvent pas être à la fois femmes et héroïnes de science-fiction. Ça n'est pas possible. L'adolescent de l'époque ne peut pas assumer les deux rôles en même temps dans sa tête, c'est trop dur. Donc les deux auteurs qui prennent en charge cette version Conan le barbare au féminin, c'est Catherine Moore et Leigh Brackett. Leigh Brackett qui a été notamment la scénariste du Grand Sommeil, qui est une scénariste très très utilisée aux États-Unis, mais elle n'arrive pas à sortir de cette image de la femme qui est soit victime, soit clone d'un mâle. Ça nous amène à son mari, Edmund Hamilton, qui là nous donne un personnage de femme un peu différent, c'est-à-dire que c'est une scientifique dans la cité à la fin du monde. C'est une scientifique qui va venir récupérer des hommes qui ont été transportés dans le temps. À la fin de la Terre. Et... attendez, je m'y suis mal prise, je suis un peu fatiguée, je vais la reprendre. En gros, c'est un village américain qui, à la suite d'une explosion qu'on suppose nucléaire, a été transporté dans le temps très très loin. Et il se retrouve dans ce genre dans la cité sous le globe que vous voyez là, parce que la Terre a été abandonnée et que il n'y a plus rien pour assurer la survie de l'espèce humaine. Au moment où ils vont mourir de faim, ils sont récupérés par une civilisation galactique qui est menée par un commissaire galactique qui est une femme. Cette femme est très compétente, très scientifique, ils ont des aventures terribles. Mais à la fin, elle tombe dans les bras du vrai mâle, hein, l'Américain des années 40, qui lui apprend quelle est sa place réelle dans la vie, hein, à savoir à faire la cuisine pour lui. Et des enfants éventuellement. Mais ça, c'est pas trop dit, parce que la femme, jusque dans ces époques-là, la femme ne peut pas assumer les deux rôles en même temps, l'héroïne de SF. Elle ne peut pas être à la fois la mère, l'amante et l'héroïne, c'est pas possible. Donc, dès qu'elle se place en position d'héroïne, elle risque de perdre tout le côté affectif. Ce qui va nous amener à une héroïne de SF plus récente, qui date de 1950, et c'est le docteur Susan Calvin, d'Isaac Asimov. C'est là, carrément, elle n'a même pas le droit d'être une femme. On commence à la connaître, elle a 60 ans. Elle est acariâtre, elle déteste le monde entier, et en fait, le seul être vivant dont elle tombera amoureuse, c'est un robot. Parce que c'est le seul qui est capable de lui tenir un peu la dragée haute intellectuellement. C'est ce type de femme qu'on a dans la science-fiction jusque dans les années 50. Alors, bon, il n'y a pas de quoi pavoiser, parce qu'à la même époque, on a ça, nous. C'est-à-dire Barjavel avec Ravage. Alors là, carrément, des héroïnes de SF, vous n'en avez pas. Hein? Dans Ravage, il recrée une société après que la Terre ait été dévastée par je ne me rappelle plus quel cataclysme, et le patriarche se baise avec tout un règne de dames tout à fait soumises et qui n'ont absolument aucun rôle intéressant. Donc les Américains, quand même, à la même époque, ils ont des personnages de femmes intéressants, mais qui sont immédiatement, dès qu'ils cessent d'être dans la position de héros, sont renvoyés à la cuisine, hein, direct. Et donc, Barbarella, je vous ai montré tout à l'heure, avec un de ses amants, Hector, J'aime beaucoup cette image. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non ? Vous lisez le dialogue ? C'est très petit. Alors, en gros, Hector, vous avez du style. Oh, madame est trop bonne. Je connais mes défauts, mais elle a quelque chose de mécanique. Voilà, c'est ça qui me dit. Donc, Barbarella, elle conquiert la galaxie par l'amour. C'est très, très années 60, évidemment. Et jamais on la renvoie à la cuisine. Elle. De toute façon, on ne peut pas. Je ne sais pas bien sûr. Je crois qu'il y a, il y a une scène où Jean-Claude Forest essaye de lui faire faire de la cuisine et ça tourne au désastre. Évidemment, on ne peut pas avoir tous les rôles, on ne peut pas avoir tous les talents dans la science-fiction, même dans les années 60, où pourtant la libération sexuelle aurait pu autoriser ce genre de choses. Mais bon, ça avance. Alors, on a ça. Ça, c'est la version politique, frigide et désagréable. Mais bon, à la fin, elle tombe quand même amoureuse de Han Solo et pas du crétin qui lui sert de frère, ce qui prouve qu'elle a au moins le goût. Et puis, en 79, on a enfin Sigourney Weaver, qui, elle, n'est pas sexy, n'a pas bon caractère, est plutôt préoccupée par la survie des choses pratiques. Mais ça, c'est une véritable héroïne de SF qui commence à assumer tous les rôles de femme qu'une femme peut éventuellement tenir. Et on n'est pas dans la princesse de l'espace, hein. Ça y est, c'est fini. La princesse de l'espace, elle est un peu cracra, elle a un peu mauvais caractère, et elle casse la figure à tout ce qui passe si... Oui ? Bah oui, c'est même l'idée. Et d'ailleurs, oui, elle a quelque chose de très intéressant, le personnage de Ripley, c'est qu'elle n'est pas généreuse, fondamentalement. Même si elle sauve des chats, des petites filles, etc. Elle est quand même individualiste. Et c'est peut-être une des premières héroïnes de SF qui assume l'individu, pas seulement en tant que femme, mais en tant que je suis un être humain et je sauve ma putain de peau. Et d'habitude, les femmes ne sont pas dans ce type de de rôle. C'est peut-être la première. Et on a pas mal de recul lorsque on arrive avec. Alors non, pardon. Là, je suis. On a pas mal de recul à la même époque d'héroïnes de science-fiction. Par exemple. Dans les années 80, on a des héroïnes de Heinlein qui sont très dans le collectif. Et pour moi, lorsque une héroïne de SF reste dans le collectif, c'est qu'on lui dénie quelque part son individualité. C'est une fois de plus la femme qui assume le rôle de la survie, mais de la survie sociale, pas de sa survie à elle. Ripley, elle est un peu unique dans cette liste que je viens de faire. Elle a quand même comme vision de s'en tirer, elle. Et éventuellement de ne pas ramener les aliens sur Terre, mais ça reste secondaire dans ses préoccupations. Un autre rôle de femme qui arrive un peu plus tard, c'est Sirocco Jones de John Barley. Elle est très intéressante parce que c'est une femme complète avec tout ce qui... Elle n'est plus cantonnée à la cuisine, à l'héroïsme ou les deux. Elle peut faire tout, Sirocco Jones. Je vous invite à lire les personnages de John Barley, les personnages féminins. Ils sont toujours à égalité avec les hommes, ils sont toujours dans une sphère qui, intellectuelle ou physique, mais ce sont des femmes complètes, considérées comme telles. Ensuite, on a ça. Donc, 6 ans plus tard, Cordelia Vorkosigan, dans la série Miles Vorkosigan de Loïs McMaster Ujold. Alors ça, c'est un autre personnage de femme de science-fiction. C'est-à-dire, c'est... pour ceux qui, vous connaissez la série Vorkosigan ? Levez la main, ceux qui... Oula, bon. Donc on va en parler un peu. C'est une série qui a obtenu 2 ou 3 prix Hugo. C'est une véritable série, puisque le fils de Cordelia Vorkosigan, Miles Vorkosigan, vit tout un tas d'aventures dans un univers galactique. Mais on dit très vite que, en fait, ce héros a été élevé par cette femme-là, qui est un pilote de saut, qui est un savant, qui est une héroïne capable de partir. Mais ceux qui ne l'ont pas lu, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a dans son sac? C'est ceux qui, si qu'ils l'ont lu, le ricanent.
Un gamin?
Hein?
Un gamin?
Non, vous avez perdu. Qui c'est? Qui est? Oui, c'est la tête de l'empereur fou qu'elle a dedans, bravo.
Et la scène où elle met la tête sur la table est extraordinaire.
Exactement. C'est la guerre, tout le monde est en train de s'étriper pour savoir comment ils vont tirer avantage de cette guerre. Et elle arrive dans le conseil de guerre et elle balance la tête de l'empereur fou sur la table en disant « Je suis lasse de votre guerre, messieurs, mettez-vous d'accord. »
Juste...
Ils sont tous comme ça.
Et juste avant, il y a le père d'Aral, son futur mari, qui lui dit « Oui, c'est bien les femmes d'aller faire des courses à la capitale, et c'est là où elle jette la tête. »
Voilà, d'où sortez-vous? Je suis allée faire les courses. Et elle jette la tête, l'empereur fou, sur la table. Cordelia Vorkosigan, pour moi, c'est la première héroïne féminine complète, on va dire. Elle est mère, elle est savante. On nous dit tout de suite qu'un pilote exploratro, c'est le summum de l'éducation qu'on peut obtenir sur la colonie de Bêta dont elle est originaire. Elle va élever un enfant très compliqué, Miles Vorkosigan, et elle va en faire un être humain supportable pour le reste de ses semblables, ce qui n'est pas si évident que ça. Elle va dealer avec le destin d'une planète arriérée. Enfin, Cordelia Vorkosigan, c'est vraiment, c'est la femme. C'est dans tous ses rôles obligés, y compris d'autres qu'on ne pourrait pas lui soupçonner. Et c'est aussi la raison. Elle incarne la raison dans un monde où les hommes sont guidés par des conceptions médiévales. Elle atterrit en fait sur... Elle est originaire d'une planète scientifique et elle atterrit sur une planète très très arriérée. Voilà. Cordelia Vorkosigan, d'une certaine façon, pour moi, c'est le basculement de l'héroïne de SS basique que nous avons vu depuis le départ. Alors, que ce soit Barbarella, qui est quand même excessivement... sexy, mais elle n'est que ça en fait, Barbarella. Elle est marrante, elle a le sens de l'humour et elle traverse tout, mais elle n'est que un avatar sympathique de la pute. Hein, faut être clair. Une pute gentille qui dispense ses faveurs gratos à tout l'univers, y compris à certains personnages qui ne sont pas tout à fait humains. Comme vous avez pu voir avec Hector, qui a des besoins. En fait, là où elle est intéressante, Barbarella, c'est que c'est la première femme de SF qui assume d'avoir une sexualité et d'aimer ça. C'est peut-être là où elle est vraiment transgressive, en fait, Barbarella. Et marrante. Mais Cordelia Vorkosigan, c'est la femme complète. C'est-à-dire qu'elle a une sexualité, elle a un cerveau, elle a des priorités qui ne sont pas forcément celles de ses enfants, de son mari, encore que. Elle a aussi des priorités politiques et elle assume tout avec une égale sérénité. C'est peut-être la première vraie femme de la science-fiction, on va dire. Et alors, on a celle-là.
That was your last chance.
Yeah? What are you gonna do about it? If you're the best England's got to offer, then God help you.
I'm Welsh.
Ah, on va le débrancher parce que c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant. D'ailleurs, pour vous montrer tout court. Et on va finir sur Gwen Cooper, qui, comme vous voyez, ne ressemble pas aux autres. Pour moi, de Barbarella ou des premières héroïnes enlevées par, par les robots jusqu'à Gwen Cooper, il y a un énorme chemin qui s'est fait. Déjà, Gwen, elle est pas jolie. Elle est sympatoche comme fille, mais c'est pas un canon. Elle a une brèche entre les dents, elle est légèrement ronde. Elle a un accent à couper au couteau, je sais pas si vous l'avez entendu. Un accent pas très très joli, hein, l'accent du Pays de Galles. Et c'est une héroïne de SF telle que moi j'ai envie d'en voir maintenant. C'est-à-dire une vraie femme qui assume complètement tous ses rôles, qui n'a pas besoin d'être Barbarella, c'est-à-dire avec un physique de mannequin, et qui est qui a un très sale caractère. Là, des premières héroïnes enlevées par les robots ou les extraterrestres à Gwen Cooper, il s'est passé quand même énormément de choses. Vous avez pu voir, là, on vient de sauter, grosso modo, 70 ans de science-fiction, 80 ans de science-fiction et de femmes dans la science-fiction. Et je trouve que l'évolution est extrêmement à la fois lente et intéressante. Et là, les femmes dans la SF ont toujours un temps de retard, quelque part, par rapport au mouvement féministe, etc. Mais ce temps de retard, ces archétypes qu'elles représentent, les héroïnes de SF, sont très intéressantes d'un point de vue sociologique. Et quand on arrive de la jeune fille déshabillée en passant par Barbarella pour arriver au petit boudin qui est Gwen Cooper quand même, je trouve que quelque chose se passe dans la place de la femme, en fait, dans la SF. Voilà. Alors là, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, mais éventuellement, vous avez peut-être des questions. Oui.
Au niveau juste des héroïnes récentes, moi, une des héroïnes que j'identifie particulièrement comme adepte à la situation, c'est Honora Harrington, donc Gwen Cooper.
Alors, Honora Harrington, c'est compliqué. Honora Harrington...
Je suis d'accord avec vous, c'est compliqué.
Je l'y ai pas mise, Honora Harrington, parce que... moi, elle me gêne profondément. D'abord, c'est de l'ASF avec des militaires, alors j'avoue, j'ai un peu fait l'impasse. Mais...
Je suis plus de militaire.
Mais j'en ai dans la famille aussi, c'est pas ça. Le problème, c'est. Comment dire, c'est... En fait, c'est un clone de mec, Honora Harrington. On est de la même façon qu'avec les Amazones de Mars de Lake Brackett, on est encore dans une vision. Pour être une héroïne de SF, il faut être quelque chose qui est un homme, en fait. Honora Harrington, elle n'a pas grand-chose de féminin, ni physiquement, ni... En tout cas, cela dit, je vais être très prudente, je n'ai lu que deux tomes d'Honora Harrington.
Moi, j'ai lu la série complète et à la fin, elle devient mère.
Voilà. Et voilà. Et ça change quoi, après, toi? Tu vois Cordelia Vorkosigan qui se balade avec la tête de l'empereur.
Bah, c'est un peu la même chose en fait.
Non, parce que là, elle est enceinte lorsque elle va avoir son fils Miles Vorkosigan. Cordelia Vorkosigan, elle ne va pas arrêter d'être un grand politique.
Elle va pas arrêter. Non, elle va tomber aussi enceinte par surprise, on va dire, comme ça.
Oui. Comment peut-on tomber enceinte par surprise?
Je ne vais pas détailler parce que je ne sais pas si on utilise la série, mais. Elle est capturée par l'ennemi, elle revient, il y a des petits problèmes avec sa contraception, donc c'est ce que je veux dire par...
Elle oublie sa pilule chez l'ennemi, c'est ça?
Non, c'est un plan, mais c'est une histoire d'un plan qui déconne, elle s'en rend pas compte, c'est ça que je veux dire par surprise.
Ah d'accord, oui, et
donc elle arrête pas de devenir grande politicienne, parce que justement elle se retrouve au cœur d'un conflit avec l'opposition qui fait une campagne de diffamation, avec d'accord. Son amant qui est accessoirement la vie de la reine, et ainsi de suite. Dans les derniers tomes, en fait, elle est quasiment l'oreille de la reine.
D'accord. Donc tu dis que son rôle évolue vers quelque chose d'un peu moins caricatural et masculin. Dans les premiers tomes, c'est pas vraiment le cas.
D'accord.
Oui. Quelque part, on a l'impression avec Honora Harrington qu'elle se permet de se féminiser au fur et à mesure qu'elle monte en grade et qu'elle est plus.
Oui, en fait, c'est ça.
Parce que finalement, quand elle sort de l'école, elle a besoin de s'imposer dans un milieu militaire qui est un milieu d'hommes, c'est quelqu'un qui a envie de se battre. Elle se retrouve au début au commandant d'un vaisseau dont on n'est pas sûr qu'elle ait l'autorité. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'elle est écoutée, respectée, qu'elle est classée, respectée, elle se permet de plus en plus d'être femme.
D'autant plus qu'elle a subi un traumatisme.
C'est quand même problématique, non?
D'autant plus que
qu'on doit se permettre d'être femme uniquement quand on est en position de pouvoir. Et qu'il plus est, tu viens de le dire, c'est un univers d'hommes. Je ne comprends pas comment dans une guerre pousse-bouton, on a besoin que ça soit un univers d'hommes.
C'est historique.
C'est la haute, parce que quand on lit Léonore Hampton, on a plus l'impression d'avoir la marine des années 1800, la vieille marine, la vieille Royal Navy. C'est une armée d'hommes, en fait.
C'est bien pour ça que c'est pas une héroïne de SF très passionnante pour moi, en tout cas.
Ouais, mais du coup, elle se construit comme en fait le personnage, et au départ, le personnage, c'est un peu comme vous dites, c'est un clone d'homme, quelque part, c'est vraiment un clone d'homme, dans tout cas, elle reconnaît, je suis toujours comme les hommes, elle se comporte comme les hommes, etc. Mais au fur et à mesure, du coup, le personnage s'enrichit, en fait, et le personnage. Enfin, en fait, on a presque l'impression de voir en fait, la transition que vous avez montrée au départ, où elle est clone d'homme, et après, au fur et à mesure, du coup, le personnage va se libérer, va se creuser, va devenir de plus en plus intéressant. Et à la fin, on va avoir un personnage qui va être complet, qui va être mère, qui va être en même temps politique et ça, donc un personnage qui va être complet.
Oui, alors il y a un petit souci que j'ai avec la complétude, là, le fait d'être mère ne rend pas une femme complète ou non complète. je crois que c'est hors sujet avec la complétude de la féminité.
Non, je parle dans les rôles, dans tous les rôles, en tant que politicienne, en tant que mère, etc. Donc du coup, elle pourra avoir tous les rôles en même temps, elle sera pas obligée de faire des sacrifices pour dire, bon, je peux être que héroïne, je peux pas être mère, etc.
Non, mais j'avais bien compris. J'ai profité d'une faiblesse en bouclier pour me glisser. Cela dit, c'est quelque chose qui est assez agaçant chez les héroïnes de SF, effectivement, c'est comme le moment où elles se rangent. Alors, là, ce qui est intéressant dans Honor Harrington, c'est qu'elles se rangent en prenant du pouvoir. Ce qui n'est pas un cheminement classique dans la SF. Normalement, c'est plutôt le rôle de. Dans le roman de Benoît Hamilton, le copain de Lake Brackett, une fois que la grande commissaire de l'espace a enfin compris la supériorité du mal américain, elle n'est plus la super commissaire de l'espace. Donc là, effectivement, c'est pas ce qui se passe avec Honor Harrington. Elle continue. Il y avait une question là, oui. Non, mais t'excuses pas, vas-y.
Je crois pas du tout, c'est ça, je trouve que c'est vraiment un grand problème de la science-fiction, c'est que les catégories de gens ne sont jamais, à moins d'exceptions notables, mais remises en cause, et que dans les personnages d'héroïne, c'est soit on a, comme vous dites, un clone de mec, soit on devient une femme super féminine, mais jamais on sort de ces cas-là. Et pourquoi devenir plus féminine, devenir mère ou je sais pas quoi, amènerait les femmes à être plus complètes, non.
Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me suis mal exprimée. Tu vois, pour moi, Gwen Cooper, que tu as vu à la fin, qui n'est la seule fois où elle se retrouve enceinte, c'est un horrible alien. Et puis, je sais plus, ça finit super mal, cette histoire. Elle est tout à fait complète comme fille, et elle devient pas mère. Tu vois, c'est... Si, à la fin, là, dans quoi? Dans le... Ah, mais ça, elle n'existe pas, cette saison-là. Cette saison-là n'a pas été tournée. Je refuse. Bon, cela dit, je suis vache parce que l'extrait que je viens de vous présenter, elle est de la saison qui n'existe pas. Mais moi, je la trouve beaucoup.
Mais plutôt complète, ces histoires de mère, parce que c'est pas simplement le fait qu'elles peuvent avoir plusieurs facettes. Et que dans ces facettes différentes, puisse être le fait d'être mère. Mais ça se résout pas à ça, moi je le vois comme ça. C'est-à-dire que soit oui, enfin souvent, la femme, elle va juste avoir un seul rôle. Quoi. Séductrice, mère, homme en femme, etc. Mais la vraie héroïne pour moi de l'essence, c'est justement celle qui peut avoir plusieurs facettes, mais comme dans la vie, qui peut être à la fois mère, politicienne, etc. etc.
Est-ce qu'on renvoie à l'éternelle question de conciliation entre travail et famille? Ou est-ce qu'on a vu, à part dans Homme Cyclès avec Capello qui s'occupe de ses enfants, enfin, je sais pas, jamais au moins de zéro de science-fiction de...
Au zéro? Non, mais effectivement, on ne demande jamais au mec de s'en occuper. Mais c'est pas si évident. Tu as les héroïnes de Caroline Chéri qui sont tout à fait dans un autre. Comment dire, elles sont vraiment différentes. On n'en a pas parlé de celles-là. Elles sont rarement mères, mais elles peuvent l'être. Et c'est pas leur préoccupation. Tu en as lu, du Chéri? Alors, par exemple, tu as Chanure, le cycle de Chanure. Tu as. Les Seigneurs de l'Hydre. Là, les rôles de femmes sont à la fois sont très forts, sont rarement, en fait, des rôles de mère, même si certaines le deviennent. Mais, quelque part, ce qui m'a toujours gênée, c'est que ça allait avec une froideur affective dure. Mais on peut pas vraiment soupçonner Chéri de comment dire de penser que c'est exclusif l'un de l'autre. C'est que juste elle leur donne des positions de pouvoir et elle imagine que le pouvoir ne t'autorise pas la faiblesse affective. Point. C'est pas lié à la féminité.
Hamilton dans la trilogie de l'Étoile de Pandore.
Oui, alors je n'ai pas lu celle-là. Mais j'ai commencé le premier tome et il m'a fait chier.
Non, mais c'est pas grave. C'était un des personnages qui au départ est secondaire, puis après qui devient principal. C'est le personnage de Justine. C'est une femme de pouvoir en fait qui ne s'autorise aucune affection envers personne, ce qui n'empêche pas d'être une séductrice pour arriver à ses fins. Parce que justement, elle fait partie des grandes familles qui dirigent la Terre, le Commonwealth. Mais elle va tomber plus ou moins amoureuse d'un terroriste, allant même jusqu'à le tuer, mais toujours en pensant qu'en fait elle fait pour son bien. Et après, justement, elle devient mère tout en restant une navigatrice de génie et une politicienne.
Et est-ce que c'est une bonne mère?
On ne sait pas, parce qu'elle elle est enceinte à la fin du troisième tome, et j'ai pas lu la suite parce que. La suite m'a cordialement fait chier, justement.
C'était pervers, hein, comme question, évidemment.
Oui, c'est une bonne question.
Pour changer de thème, Ripley.
Oui.
Donc Ripley, alors Ripley, elle est mère, Ripley, elle est fille, Ripley, elle a tout ce côté d'un nouveau. Il y a aussi un truc qui me semble vachement nouveau chez Ripley, c'est que...
Vachement
nouveau.
Oui.
C'est que elle n'est pas homo, mais elle n'est pas hétéro non plus. Et...
Elle est bisexuelle, Ripley. Ce qu'on veut. Moi je suis désolée, quand on court sous les balles, on n'a pas la tête à la bagatelle. En tout cas, pas moi. Hein.
La maternité, en tout cas, c'est un des thèmes qui est très prégnant dans la série Alien.
Ah oui, c'est le mot prégnant. Et... bon là.
Et qui va jusqu'au bout, et que même que Sigourney Weaver elle-même endosse à bord jusqu'à la caricature dans les Aliens.
Là, on est dans le. Comment dire, dans l'horreur de la maternité, quand même. Hein. C'est, il y a tout de l'angoisse des femmes par rapport à la maternité qui ressort par tous les tentacules dans Alien. Hein. On est dans un archétype matérialisé de l'angoisse millénaire des femmes par rapport à ce qu'elles transportent dans leur ventre qui est vivant et qui peut leur coûter la vie. Alien, pour moi, c'est une des séries les plus intéressantes, sauf un truc qui n'existe pas, qui est récent, mais qui n'existe pas. C'est un peu comme la quatrième saison de Torchwood. il y a des fois, il faut laisser les mythes où ils sont. C'est vraiment l'angoisse millénaire des femmes par rapport à la maternité. Tout ce qu'on ne dit pas et qui arrive en souterrain. Je ne sais pas ce qui se passait dans la tête du metteur en scène des premières aliens, c'est Ridley Scott, c'est ça. Ouais. Mais il devait avoir une mère intéressante, celui-là. Et qui discutait. Parce que là, dans Alien, on est vraiment... Alors, tout le monde est enceinte, en fait. Si vous réfléchissez, hein, dès qu'il tombe sur... Que ça soit les mecs ou les nanas, ils se retrouvent enceintes d'un bébé alien. Tout le monde va souffrir les tourments de l'enfer pour accoucher. et tout le monde va en crever. C'est vraiment, on est dans l'archétype de la reproduction, et c'est peut-être pour ça qu'Alien a si bien marché, c'est qu'il est allé droit au mythe et qu'il lui a explosé la gueule. C'est une de mes séries préférées, on oubliera Nini News, parce qu'il y a tout ce qu'on oublie d'horrible sur la maternité qui est exposé dans Alien. Et les véritables héros de Alien, c'est pas tellement le monstre que Ripley va jusqu'à mettre, quoi. C'est une femme qui va jusqu'à tuer son enfant. Enfin, c'est super intéressant. Oui, il y a une petite anglaise d'avoir vu. Oui.
Et juste concernant la sexualité, ou la non-sexualité, mais hors le côté, est-ce que toi, tu as d'autres exemples d'héroïnes,
oui,
de SF, qui sont soit ouvertement lesbiennes, soit qui ont servi de rôle modèle dans ce domaine? Est-ce que tu as des exemples?
Ouvertement lesbienne dans la SF, il doit y en avoir.
Dans le jeu vidéo Mass Effect, on peut choisir.
Alors oui, alors dans les jeux vidéo, ça, je suis pas bonne du tout. Oui.
Chronique des pays des mers.
Ah oui, bien sûr, Von Harburg. Bah alors là, l'homosexualité institutionnalisée est obligatoire quasiment. L'hétérosexualité présentée comme une Bah oui, puisque les filles baisent avec les filles et les mecs avec les mecs, il me semble bien. Et le seul couple hétérosexuel, c'est celui de la mère de la...
Bah, c'est pas des couples du coup, enfin, c'est des pratiques hétérosexuelles, mais c'est pas de l'hétérosexualité.
Non, d'ailleurs, ils s'amusent pas, hein. Ils rigolent pas. Dans Chronique du Pays de l'Hémère, moi ce qui m'avait frappé, c'était le rejet absolu de l'hétérosexualité. Comme étant, il n'y a que deux couples hétéros.
Il y a les deux jumeaux, là, la sœur et le frère,
ouais,
un enfant se fait ensemble. Et après, c'est juste que c'est un système où les capables de mâles, en fait, ils sont déplacés d'une ville à l'autre pour donner leur sperme et permettre la...
Oui, à la mère, et puis après, ça s'est répandu. Moi, je suis très ennuyée avec les romans de Von Harburg et la distribution des rôles féminins. Il y a cette espèce de radicalisme américain du féminisme qui me gêne profondément parce que transposer l'oppression des femmes vers ce qui me semble quelque part la haine du mal, j'ai un peu... Parce que dans Chronique du Pays des Mers, tu as un couple hétéro. Et qu'est-ce qui morfle avant d'avoir le droit de rester hétéro? Putain, c'est en Chronique du Pays des Mers, c'est Miss Bay, elle s'appelle, ou quelque chose comme ça. Et elle a quand même un mec.
Non, Miss Bay, elle est grave amoureuse tout le long de sa petite sœur.
Bah, je confonds peut-être, ça c'est bien possible, tu sais, j'ai lu beaucoup, mais il me semble bien que y a un couple qui s'en prend plein la tête en ce moment. Ouais, mais enfin, c'est le seul couple hétéro de tout le livre, hein, en vrai.
Et alors, une fois que c'est ça,
ou t'es là... Ah non, mais je te dis pas que c'est mal qu'il n'y ait qu'un couple hétéro dans le bouquin, je te dis que ce couple-là, avant d'avoir le droit d'être hétéro, il morfle à donf. Moi, ça me gêne, pas parce qu'ils sont hétéros, ou parce que les autres ne le sont pas, ça me gêne parce que, une fois de plus, rien n'est montré avec nature et plaisir.
Nature,
mais... Non, mais nature, dans le sens, c'est naturel d'être homo, c'est naturel d'être hétéro, c'est pas un problème. Moi, c'est ça qui me gêne. Il y a de la souffrance partout dans Chronique du même pays des mères. Il y a une institution sur la sexualité et il y a de la souffrance. Pour moi, la sexualité, c'est pas une souffrance, que ça soit entre mâle et mâle, femelle et femelle, ou hétéro. Alors, je n'ai pas vu Damasio, ça me fait chier, je suis vraiment désolée. Mais je te crois, vas-y. Ah, donc c'est une revanche. Il faut qu'on prenne notre revanche en littérature, c'est ça?
Non, mais c'est juste que
le problème, alors ça a été... Donc, féministes aux États-Unis, Gail Simone, auteur de Comics, c'est ce qu'elle a appelé au début les femmes du frigo. C'est-à-dire que, mon Dieu, c'est extraordinaire, pour développer un personnage masculin, quelle est la solution la plus simple? C'est tu lui donnes une petite copine et tu vas faire en sorte qu'elle se fasse violer ou qu'elle soit tuée. Mais c'est juste un procédé narratif naze. C'est tout. Il ne faut pas chercher un truc philosophique derrière. Le coup, c'est d'essayer de dépasser ça. Et alors ça, je te le donne, parce qu'à mon avis, tu vas vraiment triper. Y. Velasman. C'est une BD, principe de base. Il y a un truc qui se passe, il y a différentes explications, mais en gros, tous les êtres mâles disparaissent de la surface de la planète. Animaux comme humains. Sauf un qui s'appelle Yorick, qui est un branleur fini, mais qui, lui, n'a pas succombé au virus. Et son singe, qui est un machin, qui s'appelle en passant, donc Esperluette. Et alors, c'est...
Esperluette.
Ouais.
Ah, c'est bon.
Et le truc absolument extraordinaire, c'est qu'après, il va décliner ça. Alors, je fais juste deux, trois anecdotes. Mais par exemple, à un moment, tu vois une éboueuse, parce qu'il y a tous les mecs célibataires qui sont morts dans New York. Ça fait un nom extraordinaire. Et cette éboueuse, qu'est-ce qu'elle faisait avant? Elle était mannequin. Sauf que dans un monde où il n'y a plus d'hommes, sa plastique ne lui sert plus à rien. Donc, le seul boulot qu'elle a trouvé, c'est éboueuse.
Avec son cerveau, tu veux dire.
Voilà. Il y a un autre passage où il se retrouve à Washington, et où, en fait, ils ne comprennent pas au début. Puisqu'il n'y a qu'un personnage masculin dans toute l'histoire, parce que tu as des femmes qui, toutes les semaines, se réunissent devant l'obélisque et qui chantent du rock. Et les femmes vont lui expliquer.
Psychanalytiquement, c'est intéressant.
Justement, elles vont expliquer que quelque part, tu vois, c'est une façon d'essayer de se rappeler la virilité disparue avec un mélange de monolithe. Tu as des lesbos qui vont se
dire. Pauvres hommes!
Mais le truc qui est absolument vraiment intéressant, c'est que du coup, tu n'as que des personnages féminins. Mmh. Et les personnages
féminins... Oui, mais attends, que des personnages féminins, tu en as plein la littérature de science-fiction. Oui, tu as par exemple ce roman magnifique de... comment elle s'appelle Ursula Le Guin. Ça finit par de l'homme. L'autre moitié de l'homme... Non, c'est pas ça...
Non, c'est pas l'homme. La main gauche de la nuit.
La main gauche de la nuit, mais oui, merci. Là, on est aussi. Mais il n'y a pas de regret dans la main gauche de la nuit.
Là, c'est juste simple, parce que tu as tout. Hein, de l'autre côté, tu vas en avoir qui sont persuadés qu'en fait, les hommes ont disparu parce qu'ils ont fait le mal, etc. et qui basculent dans un côté Amazon moderne. Mais c'est juste toutes les déclinaisons possibles qui sont intéressantes. Et Vaughan, il avait été choqué qu'on lui fasse toujours la remarque, mais c'est extraordinaire, vos personnages féminins, ils sont forts. Non, non, non. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire un personnage qui soit fort à un niveau du caractère, de la psychologie. Mm-hmm. Il se trouve que là, c'est un personnage qui est une femme. Point barre. Quoi. Mm-hmm. Je pense pas que pour qu'une femme soit forte, il faille lui mettre un flingue ou je sais pas quoi. Non, il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit concrète, complexe, etc. C'est souvent le problème. Je trouve que quand on veut rendre un personnage féminin, la mauvaise première bonne idée, c'est simplement de la transformer en espèce d'homme bis et de lui filer un gros flingue.
Bah, c'est exactement ce qu'ils faisaient du temps de Bracket, les Amazones de Mars, c'est ça. Et dès qu'elles commencent à devenir mères, c'est fini, elles ne sont plus des clones d'hommes. Moi, ce qui me gêne profondément, c'est. Chez Don Arbour, en tout cas, qui est un grand auteur et que j'ai beaucoup aimé tout un temps, c'est le côté revanchard du truc. C'est, on n'est pas, je te laisserai la parole après parce que tu vas en avoir envie, on n'est pas dans une description d'une humanité où les hommes et les femmes sont égaux, on est dans une description de l'humanité où les hommes payent.
Mais la SF, c'est toujours comprendre, tu vois, mettre à contre-courant, voire même carrément, tu vois, proposer paradigme opposé pour faire réfléchir justement à la situation actuelle et se dire, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Donc, enfin, je comprends pas trop le... Je te suivrai pas jusqu'à ce point-là, parce que, justement, c'est un des ressorts classiques, c'est quand on prend, on inverse...
Oui, mais ça, c'était bien dans les années 40. Voilà. Et moi, les moments... Mais je te laisse la parole dans 3 secondes. Les moments où on présente une société... Enfin, lorsque Von Harburg écrit dans le Pays des Mères, tout le combat féministe est en train de se... non pas de s'institutionnaliser, mais bien de s'organiser, on n'est pas obligé d'avoir la peau des mecs en même temps. Tu voulais dire quelque chose? J'ai pas la même lecture que toi du Chronique du Pays des Mères, mais... Non. Mais je... Comment dire?
Il y a un côté excessif, mais qui est lié à l'époque, je trouve, mais... Pas autant que ça, quand même. Je trouve que tu... Mais il y a un côté excessif, comme il y a eu un moment, justement, avec le début du féminisme, où, voilà, il y a un moment, c'était... C'était trop dans l'autre sens.
Et c'est peut-être pour ça que ça me heurte. Hein. Après tout, je ne suis pas qu'un individu. Là, on est, pour moi, si tu veux, le côté revanchard me coince un peu quand même. Mais bon, je suis plus pour une démonstration d'une société égalitaire. Mais là, pour le coup.
Je te dirais ça maintenant, mais je trouve qu'à l'époque où a été écrit Chronique du Pays des Mers, c'est pas choquant, parce que Chronique du Pays des Mers, c'est quand? C'est 80, je crois.
C'est les années 80. C'est un des romans que j'ai lus quand j'étais jeune. Ouais.
Donc, à l'époque que ça se passe là, tu vois, ça me choque moins avec le recul. Le même bouquin, et je trouve qu'il y a des trucs qui se passent en biblique, tu vois, où c'est actuellement. Et là, ça me pose beaucoup de problèmes.
Ah, mais la biblique, c'est catastrophique. Enfin, en tout cas, depuis récemment, la biblique, c'est l'entrée du réactionnaire dans la science-fiction, la fantasy. Ça, c'est. Tu as encore quelque chose à dire? La biclite, tu sais les trucs avec les vampires. Voilà, c'est... tu sais, la fille en robe blanche pâmée dans les... Tiens, Suki Stockhouse, je ne sais plus quoi, comment elle s'appelle, elle est redoutable d'un point de vue simplement égalitaire. Elle est con, mais comme un manche. Elle se bat... Il y a vraiment la scène où elle va aller coucher avec son mec pour la première fois. Elle traverse... la pelouse vert émeraude dans une robe de chambre blanche à armature, je le jure, qui flotte dans le vent, tu vois. C'est l'héroïne romantique cruche qui va se faire bouffer par son vampire. C'est catastrophique, ça, la vie. Peut-être que j'ai une vision un peu simpliste du truc. Cela dit, tu peux pas me soupçonner de pas aimer les vampires. J'ai fait des histoires de vampires. Simplement, mes vampires à moi, d'abord... Déjà, il est vaguement bisexuel, mais surtout homo.
Dans notre club, ils sont tous hyper...
En fait, ils passent quand même énormément de temps à tourner autour de la bande cruche. Excuse-moi, pour des homosexuels, je trouve que c'est bizarre comme...
Non.
Ils n'ont pas de préjugés, je te l'accorde. Ouais, mais enfin, la seule qui l'intéresse, c'est la blondasse à son cerveau. J'ai un problème, moi, avec ça, quand même.
D'ailleurs, elle n'a pas de cerveau, mais elle était des pages, je trouve ça très beau.
Bah, il faut faire de la place aux pensées des autres. Ouais, voilà.
90% des pensées qu'elle garde, c'est des pensées de viol, et ça lui pose presque pas de problème.
Voilà, elle est très très angoissante, je trouve, Suki, moi, comme héroïne de SF.
Pour Twilight, pour ceux qui s'intéressent, il y a le nostalgia critique.
Alors, on va pas parler de Twilight parce que sinon on va se fâcher.
Justement, c'est juste une anecdote. Qui avait fait un top 10 des 10 abrutis en détresse dans les films qu'il avait vus. Ça. Et l'héroïne de Twilight figurait en top 1 et il avait sorti une.
C'est la fille qui, dès qu'elle a une contrariété, va faire la vaisselle quand même. Ou passer l'aspirateur.
Il avait sorti quelque chose qui m'avait fait hurler de rire. Il avait dit, en gros, il avait dit que dans Twilight, on se trompait de monstres suceurs de sang. Que c'était pas les vampires, les vrais monstres de Twilight, mais que c'était elle, justement, parce que si elle était censée être une fille normale, comme le disait son auteur...
Mais enfin, bon, on t'explique qu'elle est super intelligente, il n'y a aucun moment où elle le montre pendant 3 bouquins.
Ça, et ça, c'est fort, quand même.
En termes de maternité, il y a quand même un problème dans elle.
Tais-toi. Et elle va se battre jusqu'au bout pour se faire bouffer par son bébé. Ça, c'est atroce. Ça, c'est le pire.
C'est ça qu'il disait.
Mais d'abord, il baise mal. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est juste la position du missionnaire et puis c'est marrant. Non, c'est dramatique.
C'est ça qu'il disait quand lui, il s'inspire juste des films. Il a dit, mais c'est, si ça, c'est censé être une fille normale avec ses problèmes normaux, excuse-moi.
Non, je t'en prie. C'est toi là, tout le monde a le droit.
Dans ce cas, on se trompe de monstre sur sort de sang. C'est elle le vrai monstre de Twilight, c'est pas les vampires. C'est ça. Et je vous invite à regarder sa critique. Vous allez voir, c'est, franchement, moi, ça m'a fait hurler de rire.
Oui.
Mais est-ce qu'en fait, du coup, la résumé, ça serait pas que, en science-fiction, les héroïnes ont évolué pour devenir plus profondes comme personnage. Et du coup, enfin, finalement, la bouclier, t'as repris le personnage de l'héroïne dès qu'elle voit un mec et qu'il y a tout. Enfin,
voilà, en fait. Oui. La héroïne
que vous décriviez de science-fiction au départ, de la
science-fition, finalement,
c'est exactement celle qu'on voit dans tous les livres de
Beat-Lit
pour les jeunes
maintenant.
Enfin,
pas tous les livres de Beat-Lit. Il y a eu une époque où les héroïnes de Beat-Lit avaient des revolvers et étaient assez marrantes, mais. C'est intéressant comme point de vue. Le fait est que les premières héroïnes de sorties de Bram Stoker, hein, où elles sont effectivement en robe blanche à armature sur des pelouses vert émeraude, la nuit pendant que la lune brille, les premières héroïnes de Picklit façon. Comment elle s'appelle celle-là c'était sorti chez Press Pocket. Elle avait un caractère de cochon, elle ratait tout. Ah, ça ne revient pas. Les premières héroïnes de Beat-Lit, elles avaient un caractère, un métier. Et c'est vrai que là, on assiste avec Twilight à l'apparition. Twilight et. Mince, Suki. Excusez-moi, la journée était longue. C'est quoi, Suki, ça gosse? Avec Troublon, on assiste à un retour à l'ordre moral.
C'est pas vrai, Troublon, complètement subversif tout le temps. C'est
ils sont totalement subversifs, mais elle est con comme un marche.
Au début, elle évolue vachement.
Ah bon? Ah, ça, pardon, moi j'en suis restée à la première version, premier tome, et rien que l'idée d'être dans sa tête pendant un livre entier, ça a été redoutable, j'ai pas pu. Hein. Mais bon. Peut-être je me trompe, toi tu apparemment tu l'as lu jusqu'au bout, donc tu as sûrement une vision d'ensemble plus large que la mienne. Là, franchement, j'ai vraiment eu énormément de mal, moi. Et
moi,
puis.
Je me suis basé que sur la série télé. Donc après, je sais pas si c'est dans les bouquins, mais bon, dans la série, le côté cruche est quand même bien en vue. Je dois dire. Mais, après, il y a. Il y a une évolution. Alors, une évolution, je ne sais pas si c'est dans le bon sens, je ne sais même pas si c'est le bon terme, parce que là, dans la saison actuelle, enfin la saison 4, je crois, on nous annonce que c'est à moitié une fée, en fait, qu'elle est à moitié. Ouh là là, donc c'est. Il y a des fées, des loups-garous, ça devient un bordel.
Ah, mais ça, c'est marrant, ça, par contre. Ça, je suis désolée, ça, c'est plutôt rigolo. Moi, le syncrétisme, comment dire. Religioso, superstitieux, ça m'amuse énormément. Je ne vais pas cracher là-dessus. En revanche, c'est vrai que j'ai énormément de mal avec Suki Stackhouse. Je trouve qu'elle parle avec une voix de cruche, qu'elle pense de façon cruche, et qu'elle a beau baiser à droite à gauche comme elle veut des mecs super beaux, ça m'intéresse pas, sa vie. C'est, voilà. Mais ça, là, comme toi, je n'ai vu que la série et j'ai lu le premier tome. Donc apparemment,
je
ne sais pas.
Après, je dirais que le souci de cette série, franchement, moi j'ai envie. Quand même de continuer jusqu'au bout, je sais pas, par éternel optimisme, j'en sais rien. Mais en fait,
il doit y avoir un côté.
Le Troublod est complètement oublié. C'est-à-dire qu'à la base, le pitch de base, c'était simplement qu'on avait trouvé un sort de substitution pour les vampires pour leur permettre de vivre parmi les humains.
Oh, tu sais, dans Rachel Morgan, la base, c'est que une épidémie de tomates tueuses a décimé l'humanité. Alors,
après, le problème, c'est que cet aspect,
qui est très rigolo, d'ailleurs.
Cet aspect sociétal et cet aspect troublant, l'aspect sans synthétique, il est complètement laissé de côté. Alors, les questions de société, les questions d'intégration du vampire, elles reviennent sous forme différente avec, avec la politique complètement pute qui fait des coups tordus à droite à gauche pour s'octroyer le pouvoir et assassiner les rois de la droite à gauche. Mais le côté sans synthétique et le côté je suis un vampire qui essaie de s'adapter et je tue quelques humains dans le feutré, mais j'essaie quand même de m'adapter. C'est complètement laissé de côté et c'est complètement dommage.
Alors, on dit ici qu'on est allé, qu'on a un peu dépassé notre temps de parole. Si vous avez un dernier truc à dire, oui.
Mais qui n'a rien à voir, alors je vais me faire lyncher.
Mais non, mais on a le droit, allez.
Je voulais savoir si justement, vu la complexité de la femme, est-ce que c'est pas plus facile de faire des héroïnes en littérature jeunesse qui sont en fait en devenir? Est-ce qu'il n'y a pas plus de marge de manœuvre quand l'héroïne est une ado? Parce que dès qu'elle devient femme, derrière, il y a tout ce qu'on vient de dire. Quoi. Et
je rappelle que Twilight est publié en ado. Enfin, là, si on commence à avoir des problèmes du traitement de la féminité...
Non, c'était sur l'écriture. Est-ce que c'est pas plus facile de prendre en charge un personnage en devenir plutôt que... un personnage avec ses stéréotypes. Non, c'est pas plus facile. Bien.
Je sais pas, je me suis jamais posé la question comme ça. Donc j'essaie de réfléchir sérieusement à ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est juste. Je prends un homme ou une femme et il évolue, mais. Non, c'est pas plus facile de décrire un ado qu'un adulte, en fait. Ou même un enfant petit, puisque j'écris également en jeunesse, et que en jeunesse, hein, donc j'ai des personnages qui ont 9 ans, donc ils ne sont pas ados du tout. Tout être humain est forcément complexe, et même enfant.
C'est surtout que ce n'est pas le problème, en fait.
Voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes enjeux, c'est tout. C'est tout ce que je vois. En fait, quand moi je choisis un héros pour représenter une histoire, c'est le sexe s'impose de lui-même, mais c'est pas tellement lié à l'histoire, c'est la personne avec qui j'ai envie de parler. En fait. Voilà. Mais en fait, moi je suis au-delà, enfin, j'ai l'impression d'être au-delà de la problématique de la guerre des sexes, on va dire. Ça fait longtemps que j'ai répondu à ma question en fait, ce sujet. Et ce que j'essaye de montrer, moi, en science-fiction, c'est des héros, mâles ou femelles, ou tout ce que vous voulez, même avec des tentacules, qui font avec le réel.
Et le racisme, c'est devenu un peu
du racisme? Non. Ah non, ça je ne peux pas revenir à ça.
Mais par contre, le sexisme?
Je crois que c'est la seule façon... C'est la seule façon que j'ai de le supporter, c'est qu'il n'existe plus. En tout cas, pas chez mes héros. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais ouais, je trouve que c'est aussi intéressant à remarquer. En fait, c'est des problématiques qu'on a plus tendance à mettre de côté.
Alors, je crois que tu n'as... Est-ce que tu as lu ce que j'écris?
Non.
Alors, voilà... c'est pas des problématiques du tout que je laisse de côté, c'est au cœur de ce que je raconte. Bien au contraire. Mais la guerre des sexes n'est pas au cœur de ce que je raconte.
Non, parce que vous venez de dire que vous l'avez laissé de côté, c'est pour ça que je réagis.
Je démontre comment ça pourrait être si on n'avait pas besoin de se battre contre le sexe. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pas dans la revendication, parce que dans mes mondes à moi, c'est fait. Tu vois?
Ce qui est vraiment super avec le personnage de l'ado dans Eden en sursis, je trouve, psychologiquement, c'est vraiment une ado, fille, complexe, etc. Mais voilà, elle est comme ça, quoi. Elle a pas... Je l'ai trouvé vraiment super intéressant.
C'est pas parce que c'est une fille qu'elle est comme ça, c'est parce que
c'est
elle. C'est
ça.
Voilà. Et les deux garçons, c'est pas parce que c'est des garçons qui sont comme ça, c'est parce qu'ils sont bouillants quand même. Voilà. Mais ma première nouvelle de SF, en fait, l'héroïne était une fille de caractère, elle était entourée de crétins. Mal. Et on en a fait un manifeste féministe anti-mec. Non, c'était juste une situation où il y avait une fille intelligente et deux crétins. Parce que ça existe. Il y a des filles intelligentes entourées de crétins, et des crétins et des super crétines avec des gens, des mecs intelligents. Voilà. Et pour moi, ce qui est important de faire passer, c'est que l'égalité, elle est aussi dans la connerie. Voilà. Ouais. Et là, je suis obligée de vous laisser parce que on a fait signe. Bonsoir.